Chapitre 4. La vie était en train d'accorder une seconde chance à Pierce Quincy. Mais l'ancien profileur du FBI n'était pas du genre à s'apesantir sur une telle idée. 15 ans plus tôt, il n'aurait peut-être même pas été du genre à croire une telle chose possible. Élevé par un père célibataire après le décès brutal de sa mère, il était entré dans la police de Chicago avant d'être recruté par le FBI. Étoile montante, il avait ensuite eu l'honneur de rejoindre les pionniers du profilage, aux côtés de certaines légendes du bureau. Certes, son travail l'éloignait de sa femme et de leurs deux filles, Mandy et Kimberly, mais c'était le prix à payer pour traquer des tueurs en série. On ne peut pas pourchasser ce que l'humanité produit de plus monstrueux et rentrer à l'heure pour le dîner. Son métier était une vocation. Et Quincy s'y était perdu. Sa femme l'avait quitté. Ses deux filles avaient grandi sans lui. Jusqu'à ce coup de fil un beau jour. Mandy avait eu un accident. Sauf qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un accident. Quincy avait ramené du travail à la maison, en fin de compte. Un criminel bien décidé à se venger. Et sa fille aînée, puis son ex-femme en avaient fait les frais avant qu'il n'arrive à l'arrêter. Auprès de Rainey, Quincy avait trouvé un meilleur équilibre. Et même s'il n'était toujours pas connu pour sa verve, il avait au moins des sujets de conversation communs avec l'ancienne policière. Rainey comprenait ses silences, tout comme lui comprenait les démons de sa femme. Qu'il n'exprime pas ses émotions ne signifiait pas qu'il n'en avait pas, et elle l'acceptait. De même que lui acceptait le fait qu'elle serait sans doute toujours insomniaque, et qu'il lui faudrait chaque jour, à chaque heure, faire le choix courageux de ne pas retomber dans l'alcool. Voilà où ils en étaient. Un peu plus mûrs, un peu plus sages, et incroyable mais vrai, en passe d'adopter une adolescente. Ils étaient à la fois inquiets et enthousiastes, terrifiés et pleins d'espoir. Bref, ils étaient des parents. Quincy avait passé le début de la matinée à écouter Rainey parler à voix feutrée à l'autre bout du couloir. Sans doute essayait-elle d'apprivoiser la bête fauve qui prenait parfois le visage de leur fille, avant de la conduire à son stage de natation. Quand on leur avait confié Charla, son dossier faisait mention de difficultés de socialisation. On ne leur avait pas menti. Avec les enfants placés, la question de l'attachement est toujours délicate. Si Quincy et Rainey avaient été agréés comme famille d'accueil, malgré l'âge avancé de Quincy et les problèmes d'alcool de Rainey, c'était en partie parce que Quincy était considéré comme un spécialiste du sujet. De fait, les interruptions dans le processus d'attachement jouent un rôle fondamental dans la psychologie du tueur en série. Et si l'on ajoutait aux tendances antisociales de Charla le traumatisme qu'elle avait subi dans sa petite enfance, son assistante sociale avait des raisons de se faire du mouron. D'ailleurs, pendant les 6 premiers mois, Charla n'avait pas manqué de leur mener la vie dure. Mais peut-être que Quincy se ramollissait avec l'âge parce qu'en regardant sa future fille adoptive, il ne voyait pas une prédatrice en devenir. Il voyait une petite fille perdue. Une petite fille qui avait beaucoup souffert et s'était donc constituée une carapace protectrice. Charla ne faisait pas confiance aux autres. Elle n'allait pas vers eux. Elle ne se livrait pas. Mais elle était capable d'attachement. Il suffisait de la voir avec Luca. Quincy avait recueilli le berger allemand sur un coup de tête. Certains articles sur l'adoption encourageaient les parents à prendre aussi un animal pour donner un compagnon à l'enfant. De plus, s'occuper d'un animal de compagnie donne le sens des responsabilités, et oui, Quincy était un peu vieux jeu sur ces questions. Et puis, dans la mesure où Rainey et lui accueillaient une enfant, pourquoi pas un chien par-dessus le marché? Tant qu'à fonder une famille, autant ne pas faire les choses à moitié. Charla adorait ce chien, et il le lui rendait bien. Ils étaient inséparables. Ce n'était peut-être pas le type de socialisation que Rainey et lui avaient en tête, mais c'était déjà un début. Cela leur laissait espérer qu'avec un peu de chance, Charla les aimerait un jour au moins autant qu'elle aimait son chien. Là encore, les joies de la parentalité. Quincy se reconcentra sur son téléphone. Shelley Atkins, le shérif du comté, était à l'autre bout du fil.
« 2 morts,
disait-elle.
« Plusieurs balles chacun. »«
Braquage ?» demanda Quincy.
« La caisse a été vidée. Mais tenez-vous bien, l'individu a pris l'argent après les meurtres, pas avant. D'après les images de la vidéosurveillance, il n'est pas arrivé en formulant des demandes. Il a débarqué et tiré. On dirait presque que l'idée du vol lui est venue après coup. Si le but avait été de se remplir les poches, agiter son flingue aurait suffi. Inutile de supprimer deux innocents qui n'offraient aucune résistance.
Vous avez une vidéo ?
Oui, en fait, c'est pour cette raison que je vous appelle. Quincy, voyons, c'est un peu difficile à expliquer, mais j'aimerais que vous veniez y jeter un coup d'œil. Ce gamin, la tête qu'il fait au moment de tirer, il a abattu ces deux personnes sans raison. Et un garçon qui tue avec une telle indifférence...
Vous craignez qu'il ne recommence ?
Exactement.
Quincy consulta sa montre. Rainy était déjà parti déposer Charla au YMCA. « Donnez-nous 40 minutes, » dit-il au shérif Atkins. « Je vous retrouve à votre bureau avec Rainy. »
« Garez-vous à l'arrière. Les journalistes ont déjà eu vent de l'affaire. »
« Conférence de presse ?»«
Autant s'y résoudre, sinon ils vont nous piétiner la scène de crime. D'ailleurs, j'ai une mission à leur confier. »«
Vous allez vous servir des médias ? Vous n'avez peur de rien ?»
Ça, je n'ai pas froid aux yeux, mais surtout j'ai une capture vidéo du visage de mon assassin. Que les médias la diffusent et avec un peu de chance, on aura le nom de notre ami dans la journée.
Quincy eut une idée. Vous dites que l'individu a tiré sur la caméra.
Exact.
Mais après le double meurtre.
C'est ça.
Oh.
Qu'est-ce que ça veut dire,
Laissez-moi 40 minutes et on le découvrira ensemble. Quincy appela Rainy sur son portable pour lui donner rendez-vous dans les locaux du shérif. Il entendit Charla poser des questions depuis le siège passager, excité comme une puce. Au début, Rainy et lui s'étaient consciencieusement appliqués à mettre une barrière entre leur travail et leur fille adoptive. Inutile d'ajouter au traumatisme de Charla. Mais le temps passant, Charla s'était montrée réellement intéressée par ces sujets. Et elle était intelligente, passionnée. Pour finir, l'assistante sociale leur avait donné le feu vert pour parler criminologie au dîner. Après tout, Charla faisait partie de ces enfants qui savent que les loups sont parmi nous. Connaître les techniques policières et les méthodes psychologiques permettant d'identifier et d'appréhender les criminels la rassurait beaucoup plus que les discours lénifiants que tiennent en général les parents. « Ne t'inquiète pas, on te protégera. » Charla voulait être capable de se protéger toute seule. Ce qui faisait d'elle une grande admiratrice du travail de Rainy et Quincy. Et peut-être exactement le type d'enfant qu'il fallait leur confier. Il referma le classeur qui se trouvait sur son bureau, celui qui excitait tant la curiosité de Rainy et Charla, et le rangea dans son tiroir fermé à clé. Une dernière formalité, réflexe hérité de ses années de métier, il s'approcha d'une photo en noir et blanc accrochée au mur. Une adorable fillette au sourire édenté épiait de derrière un rideau de douche. Sa fille aînée, Mandy. Avant que la vie, l'alcool et un psychopathe ne la rattrapent. Il décrocha le cadre pour accéder au coffre-fort. Il était récemment passé à un modèle biométrique. Il posa le bout de l'index sur le scanner. Bourdonnement, déclic et la porte s'ouvrit. Il choisit le 22, une simple arme de secours, parce que officiellement les consultants auxquels la police faisait appel n'étaient pas tenus d'être armés. Mais à un homme qui en avait vu autant que lui. Quincy mit l'arme dans son étui de cheville. Et se prépara à sortir dans la canicule. Les bureaux du shérif du comté avaient bien la gueule de l'emploi. Une construction sur deux niveaux, trapue, une façade beige. Le genre d'architecture qui ne pouvait plaire qu'à des autorités locales soucieuses d'économie. Suivant le conseil de Shelley, Quincy se dirigea vers l'arrière du bâtiment, passant dans sa Lexus noire à la hauteur d'une foule grandissante de camionnettes de journalistes. 10 heures. Manifestement, personne ne voulait être en retard pour la conférence de presse prévue dans une demi-heure. Alors qu'il tournait pour entrer sur le parking, Quincy secoua la tête avec dégoût. Il y avait vraiment des aspects du travail de police qui ne lui manquaient pas, et les relations avec la presse en faisaient partie. Il repéra la voiture de Rainy. Celle-ci attendait au volant, certainement pour profiter le plus longtemps possible de la climatisation. Vu la température extérieure, il en aurait fait autant. Il se gara à côté d'elle. Elle ouvrit sa portière pendant que lui détachait sa ceinture et tous deux sortirent dans la chaleur torride. « Pouh !» dit-elle, ce qui résumait assez bien cette impression d'être dans un four. Rainy, qui n'était parti que pour déposer Charla, portait une tenue décontractée. Pantacourt noir et t-shirt vert clair agrémenté d'arabesques vert foncé sur le côté. Elle aurait pu être une maman sexy en route pour le yoga. Après toutes ces années, Quincy n'en revenait toujours pas qu'elle soit sa femme. Dans son cas, les vieilles habitudes avaient la vie dure. Il portait ce que Rainey appelait pour le taquiner sa tenue FBI du dimanche. Pantalon beige et polo bleu marine. À l'époque, son polo aurait été orné du blason de l'agence. Aujourd'hui, il en portait un aux couleurs de la Six Sauer Academy où il donnait de temps à autre des cours de tir. On restait dans l'univers du maintien de l'ordre sans que ce soit de la publicité mensongère. Comment ça s'est passé avec Charla ? Demanda-t-il en claquant sa portière avant de faire le tour de la voiture pour rejoindre Rainey. Elle fait de son mieux, répondit celle-ci avec philosophie. Autrement dit, on a sans doute une heure avant qu'on nous demande de venir la chercher. Et encore. Ils se dirigèrent du même pas vers le bâtiment. Il ne t'arrive jamais de te dire que c'est un comble qu'on nous demande, à nous, d'apprendre la sociabilité à une enfant ? Tout le temps, lui assura-t-il. Première arrivée, il lui tint la porte et la suivit dans la relative fraîcheur du bâtiment. Il savait d'expérience que la sensation ne durerait pas. Une telle canicule était rare sur la côte et la plupart des climatisations n'étaient pas assez performantes. À supposer d'ailleurs que le bâtiment eut la chance d'en être équipé. Connaissant les lieux, Quincy et Rainey se dirigèrent droit vers l'agent d'accueil, montrèrent leurs pièces d'identité et se firent ouvrir la lourde porte en métal électrique qui menait au cœur du bâtiment. Comme c'était souvent le cas, un seul et même édifice abritait tous les services chapeautés par le shérif. Dépôts, plateformes de réception des appels d'urgence, etc. Notamment la brigade d'enquête criminelle où Quincy pensait retrouver Shelley. Ils montèrent à l'étage et, de fait, Shelley se trouvait dans une salle de taille modeste prévue pour accueillir 4 agents, mais pas nécessairement tous en même temps. Des murs blancs cassés, une moquette bleue qui ne craignait rien, des meubles sans âme en aggloméré. Ce bureau ressemblait à tous les paddocks d'enquêteurs que Quincy avait eu l'occasion de voir, à l'image du reste du bâtiment. Quelqu'un avait eu la prévoyance de repousser 2 des bureaux sur le côté afin de libérer l'espace au milieu de la pièce. Shelley, son sergent Roy Peterson et l'adjoint Dan Mitchell regardaient une image sur l'écran plat fixé au mur du fond. Rainey et Quincy connaissaient toutes les personnes présentes, donc les salutations furent vite expédiées et ils passèrent aux choses sérieuses. « L'alerte a été donnée peu après 8 heures ce matin », indiqua Shelley à Rainey et Quincy. Puis elle montra l'écran. Une image arrêtée, le visage d'un adolescent blanc vêtu d'un sweat à capuche noire qui les regardait droit dans les yeux. Sans une once d'émotion. J'ai répondu moi-même à la demande d'intervention. Mes adjoints avaient déjà dépassé leur quota d'heures supplémentaires, ajouta-t-elle devant leur regard interrogateur. Elle vacillait légèrement sur ses pieds, fatiguée mais sur les nerfs. Une sensation dont Quincy se souvenait bien. Mais le temps que j'arrive, c'était plié. 2 morts et le meurtrier dans la nature. Vu les circonstances, j'ai pris la décision de visionner les images de la vidéosurveillance sur place plutôt que d'attendre nos collègues de la police d'État, puisque ça semblait notre meilleure piste pour identifier le tireur. « C'est lui ?» demanda Quincy en montrant l'écran. « Gagné !» Il regarda de nouveau la photo avec le sentiment intrigant de connaître ce garçon, comme s'il l'avait déjà croisé et en même temps jamais vu de sa vie. Il lança un coup d'œil vers Rainey qui regardait aussi la photo d'un air soucieux. « Est-ce qu'on pourrait voir la vidéo depuis le début ?» demanda-t-elle. Tout ce que vous jugerez utile. Shelley prit la télécommande. Le visage impassible du jeune homme disparu, bientôt remplacé par une nouvelle image. Celle d'une tête de femme vue de dos. Shelley appuya sur la commande et la lecture de la vidéo commença. La définition était bien meilleure que Quincy s'y attendait pour une caméra de station-service. Mais la séquence était courte. Le pistolet apparaissait à l'image et en une poignée de secondes, littéralement moins d'une minute, 2 personnes étaient sur le carreau. Un temps mort de quelques minutes, puis l'individu entrait pour de bon dans le champ, les regardait dans le blanc des yeux et levait le pistolet pour décocher une dernière balle. « L'arme ?» demanda Quincy, l'angle de la prise de vue ne permettant pas d'avoir de certitude sur ce point. « Du 9 mm, du moins à en juger par la balle qu'on a retrouvée. On en saura davantage quand les experts en balistique de l'État auront pu faire leurs analyses. » Quincy approuva d'un signe de tête. Étant donné la nature particulièrement choquante du crime et le retentissement que la presse était sur le point de lui donner, l'État mettrait certainement le traitement de ces indices au premier rang des priorités. Rainey avait une autre question. Comment le tireur est-il arrivé? En voiture? À pied? Elle regardait Shelley. Bonne question. La station EZ Gaz est éloignée de tout. Pas de voisins qui pourraient nous servir de témoins. Mais comme elle se trouve à plus de 7 km de la ville, ça ferait une trotte par cette chaleur. Autrement dit, on peut faire l'hypothèse qu'il est arrivé en voiture, conclut Rainy. Le seul véhicule retrouvé sur place est un pick-up rouge appartenant à la première victime. Donc, on ignore si le suspect a agi seul ou s'il avait un complice qui aurait conduit une voiture pour prendre la fuite, insista Rainy. Tout est possible. Shelley retourna en arrière jusqu'à l'image arrêtée du tireur. Pour l'instant, voilà ce qu'on a. Si on identifie ce jeune homme, on connaîtra notre meurtrier, compléta Quincy. C'est l'idée. D'où la conférence de presse. Merde, que je ferais bien de préparer d'ailleurs. Shelley regarda Quincy et Rainy. Vous pensez qu'il est dangereux ? Oui, répondirent-ils en chœur sans hésiter. Alors je m'en tiens au discours habituel. Toute personne en possession d'une information est invitée à nous contacter, ne pas s'approcher seule de cet individu. Pourquoi a-t-il fait ça ? S'interrogea Quincy. Pourquoi tuer ces deux personnes ? Il leur est tombé dessus par surprise, constata Rainy. Et il n'y a pas été avec le dos de la cuillère si le vol était sa seule motivation. Elle se tourna vers Quincy. Aucune hésitation. Shelley comprit le sous-entendu. Vous pensez qu'il n'en était pas à son coup d'essai ? Il y a de fortes chances, dit Quincy à mi-voix. Il nous faut les profils des deux victimes, surtout de la jeune fille. Là encore, Shelley lut entre les lignes. Ce serait elle la véritable cible ? Elle avait à peu près l'âge du tireur. Peut-être une querelle d'amoureux et l'acheteur de chips ne serait qu'un pauvre gars qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Je pense qu'un tel scénario vous faciliterait la vie, dit Quincy. S'il s'agit d'une rupture qui a mal tourné, le tueur a atteint son objectif. Mission accomplie. Et maintenant ? Quincy n'hésita pas. Si vous avez beaucoup de chance, il va rentrer chez lui et se tirer une balle. Dans le cas contraire ? Vous avez raison et ses exploits ne font que commencer. Montrez la photo à la presse. Identifiez-le. Mais faites bien passer le message qu'il est armé et dangereux. Que la population se tienne à l'écart. Que croyez-vous qu'il va faire ? Demanda Shelley. Entre nous. Pour la gouverne de Pecno qui, par bonheur, n'ont pas affaire à ce genre de criminels tous les quatre matins. Quincy fit la moue. Observa l'image. Se renfrogna encore. Je crois que ce garçon a abattu deux personnes en moins d'une minute, et qu'ensuite il nous a volontairement montré son visage. Je dirais qu'à ce stade, avec ce suspect, les inconnus sont encore beaucoup trop nombreuses pour se prononcer.